Le Joker, Double Face ou encore Catwoman, ce sont les super-vilains et super-vilaines qui, sans Batman, plongeraient Gotham City dans le chaos. En Suisse, les criminels corrompus portent des costumes plus discrets, mais n'en sont pas moins dangereux. On en discute dans Mon œil.
Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.
Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse à la criminalité en col blanc. Corruption, blanchiment d'argent, fraude, ces méfaits ont jalonné l'histoire de la place financière helvétique. Comment enquête-t-on sur ces sujets au pays des banques et de la discrétion? J'en discute avec Marie Maurice, bonjour.
Bonjour.
Marie, tu es journaliste et tu as travaillé dans de nombreuses rédactions, Le Monde, L'Hebdo, Le Temps, 24 heures. Et en 2017, tu as cofondé avec François Pillet une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique qui a un nom assez évocateur, Gotham City. Pourquoi cette référence à l'univers de Batman?
C'était une référence qui était chère au cœur de mon associé François Pillet, qui aimait bien cet univers du Marvel. Et puis, c'est une référence un petit peu à Genève, qu'on considère un peu comme la ville du crime économique. C'est vrai qu'il y a énormément d'affaires de crimes financiers, du monde entier d'ailleurs, qui passent par Genève ou qui sont passés par Genève. On le constate encore aujourd'hui. Donc, c'était un peu rigolo pour nous de donner ce nom-là à une publication qui est pour le coup très sérieuse, très technique et très spécialisée dans cette activité de journalisme spécialisée dans le crime économique, de donner une petite touche d'humour avec ce nom Gotham City, qui est plus facile à retenir et plus journalistique et plus grand public que un truc plus obscur, quoi.
Ouais. Nous, en tout cas, on n'a pas résisté à saisir la perche et c'est pour ça que je te propose un petit extrait de Batman lui-même dans son dernier film.
Dans le chaos se cachent les malfaiteurs, prêts à bondir tels des serpents. Mais je suis là, moi aussi, et je veille. Deux années noctambules ont fait de moi un animal de nuit. Je dois bien choisir mes cibles.
Alors, je te rassure, je ne me balade pas avec un masque et une cape de super-héros.
Et tu travailles pas la nuit?
Au quotidien, la nuit, je dors. En fait, on apprécie le clin d'œil, mais nous, je dois le dire souvent, on n'est pas des justiciers. Nous, on n'est pas des shérifs qui poursuivons les méchants. Nous, on est journalistes et donc notre travail, c'est de qu'il y ait plus de transparence sur ces thématiques. C'est pas à nous de punir les méchants.
Bien sûr, vous faites pas la justice, mais non. Vous faites un travail de l'ombre, fastidieux. Il y a quand même des parallèles intéressants que je vois, en tout cas.
Mais ça me fait plaisir d'être valorisé comme ça, mais un travail de l'ombre, oui, parce que en fait, notre quotidien, bon, c'est quand même un peu moins sexy que Batman. Hein. On plonge dans des papiers, des documents juridiques, des documents de justice qui sont la plupart, même la totalité, en accès libre. Hein. Ce n'est pas des documents cachés qu'on nous passe sous des ponts la nuit, justement. C'est des documents qu'on va chercher, qu'on trouve, qui sont libres.
C'est des arrêtés du tribunal.
C'est ça, c'est des jugements, des actes d'accusation. Alors, tout dépend des juridictions où on les trouve. Certaines juridictions sont très ouvertes et donnent des tas de choses. D'autres le sont moins, on pourra revenir là-dessus. Mais en gros, notre matière première, notre source, ce sont ces documents de justice. Donc, c'est moins sexy que ce que fait Batman. Mais là, je te rejoins, c'est un travail de l'ombre. Parce que ça nous prend énormément de temps, en fait.
Et c'est ça qui vous distingue des médias traditionnels?
Oui, je dirais que les médias traditionnels, je les connais, notre équipe les connaît aussi, puisqu'on a tous plus ou moins travaillé dans ces médias-là. Les médias, quand il s'agit de crimes économiques, ils font des choses, il y a des enquêtes, il y a des choses qui sortent, mais pas souvent, c'est souvent des grosses opérations, c'est pas régulier. Et puis, parfois, ils ont des sources confidentielles, des gens qui leur donnent des informations. Et ça, c'est important et nécessaire. Nous, ce n'est pas du tout le même boulot qu'on fait, en fait. Nous, on fait ce qu'on appelle de la veille judiciaire. Ça veut dire que notre travail, c'est d'aller voir dans le maximum de tribunaux et d'instances judiciaires pour voir qu'est-ce qui s'y passe en termes d'affaires financières et économiques. C'est vrai qu'on sait que les journalistes, ils traquent le crime, le fait divers. Ça, c'est assez suivi. S'il y a une vague de suicides ou un crime, un viol, un meurtre, il y a ces journalistes-là qui sont dans les tribunaux, qui rapportent ces affaires-là. Pour la finance et l'économie, ça n'existait pas vraiment, en tout cas pas en Suisse. Mmh. Donc c'est ça qu'on a voulu faire, en fait. Parfois, on appelle ça du fait divers économique entre nous. On se dit, ouais, on fait un peu de fait divers économique. Mmh. C'est des affaires un peu cracra, comme je dis.
Oui.
Mais ça se passe dans le milieu de la banque et de la finance, quoi.
Et dans ces affaires-là, c'est quoi le profil type du méchant ?
C'est le dirigeant ou l'homme politique ou quelqu'un de pouvoir, en tout cas souvent un homme, souvent blanc, ça ne vous étonnera pas, qui pique dans la caisse ou qui vole de l'argent, ou de toutes les manières que ce soit. Soit il vole son État, c'est-à-dire qu'il détourne des fonds dans des tas de pays, soit il pique de l'argent direct, il est banquier, puis il pique dans la caisse, il pique à ses clients,
mmh.
ou alors c'est quelqu'un qui pique de l'argent public dans le sens où il ne paie pas les impôts qu'il devrait payer, c'est-à-dire qu'il fait de la fraude fiscale. C'est un peu ça, les profils.
Et c'est quand même un domaine assez spécifique. Comment tu t'es retrouvée dans la criminalité économique ?
Alors, c'est vrai que ce n'était pas inné pour moi. Moi, je viens d'une famille dont j'ai grandi en France, dans le Sud, comme ça ne s'entend pas. Puis j'ai des parents qui ne sont pas du tout ni dans le journalisme, ni dans la banque. J'ai toujours voulu être journaliste. J'ai commencé plutôt par des sujets de société, d'abord en France et puis après en Suisse. Et puis en fait, j'ai découvert l'enquête économique ici, parce que c'est vrai qu'ici, en Suisse, il faut se rendre compte qu'il y a énormément d'affaires de crimes économiques.
Mmh.
Qu'est-ce que c'est les affaires de crimes économiques ? C'est les affaires de blanchiment, en fait. Quand il se passe quelque chose d'illégal avec beaucoup d'argent dans le monde... C'est assez fréquent que ça passe une fois par un compte en Suisse, en fait. Et donc, on tombe sur des tas d'histoires qui sont absolument fascinantes, sans parler de matières premières que Public Eye connaît très bien, etc. Il y a tout un tas de domaines qu'on couvre aussi, mais c'est vrai que c'est... J'allais dire, mais je veux pas dévaloriser ce qu'on fait, mais c'est pas très difficile de trouver ces affaires, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis en déménageant en Suisse et en m'installant ici, ça fait maintenant 15 ans à peu près, que je me suis rendu compte que ça me donnait accès, ces affaires, tu me dis si je parle trop. Hein,
parce non,
que
non, moi, je te couperai le cas échéant, d'accord. T'inquiète pas.
Je me suis dit que ça me donnait accès à des univers très loin de nous. Par exemple, si je prends une affaire basique de fraude fiscale ici en Suisse, donc il y a un compte en Suisse, il y a de l'argent qui est caché, il y a de l'argent qui est sale, mais à qui il appartient ? Et puis parfois il appartient à un homme d'État péruvien, parfois il a été détourné d'une caisse de sécurité sociale en Angola. Enfin, ça me fait voyager aussi dans des univers de pouvoir, toujours, de pouvoir et d'argent, qui sont assez croustillants et intéressants. Au-delà du simple compte bancaire, en fait. Pour moi, le compte bancaire, c'est une porte d'entrée vers une autre histoire qu'on peut raconter. Et c'est ça qui me plaît, en fait.
Ouais, la criminalité est mondialisée aujourd'hui. Vous ne faites pas que des amis, non ? Vous avez fait la cible de procédures en justice, même de cyberattaques. Tu arrives à nous raconter un peu cette histoire ?
Alors, en fait, c'est vrai qu'on a des ennemis qui sont puissants. Alors, j'aime pas trop utiliser le mot ennemi parce qu'en fait, ce sont pas nos ennemis. Nous, on essaie d'améliorer la transparence sur ces sujets-là parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de sujets sur des affaires de faits divers classiques que sur des affaires de faits divers économiques. Donc, on voudrait que les puissants, en fait, qui font des choses qui sont illégales, soit condamné à la bonne hauteur, soit suffisamment condamné, et soit aussi, quand c'est d'intérêt public, qu'on explique ce qui s'est passé et ce que ces personnes ont fait, c'est pas souvent le cas. Alors évidemment que ces gens-là, ils sont un petit peu fâchés quand ils voient leur nom apparaître sur notre site internet, dans notre newsletter, et quand il s'agit de personnes assez connues, c'est souvent repris dans les médias, parfois même à l'international, donc... Ça ne leur plaît pas. Alors,
et vous êtes un petit média quand même. Comment vous faites pour résister aux attaques ?
Alors, c'est vrai que ça, au début, on a été un peu naïfs. On pensait que ça irait. Et puis, au bout de 4-5 ans, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de procédures en justice. C'est arrivé un peu le même été où on s'est pris des tas de procédures en justice avec des frais d'avocat qu'on ne pouvait pas assumer. Et puis, en même temps, il y a eu ces cyberattaques. Alors, on ne sait toujours pas... On a porté plainte, on n'a pas de nouvelles. Hein, on ne sait toujours pas qui a fait ça, pourquoi. Mais ils ont complètement attaqué nos serveurs.
Shut down le site.
Voilà, le site était complètement à plat, sachant qu'on l'a fait nous-mêmes, le site, enfin, avec l'aide d'un ami. Mais Voilà, on est vraiment une toute petite équipe indépendante. On n'a absolument levé aucun fonds. Mmh. Donc, c'est vraiment l'argent des abonnements qui nous fait vivre. Et là, on a contre-attaqué en expliquant au grand public ce qui nous arrivait. Depuis le début, on était assez discret. Et puis là, on s'est dit, il faut en parler. Donc, on a eu plusieurs techniques. Déjà, on s'est fait aider pour la cyberattaque. On s'est fait aider d'une fondation qui a maintenant pris en charge la gestion de notre site Internet. On a délégué ça parce que notre serveur, en fait, n'était pas en état. Notre serveur ici en Suisse ne suffisait pas à gérer ces attaques. Mmh. Donc ça, on a délocalisé et depuis, ça se passe mieux.
Et pour les aspects financiers, il y a le bad fund.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on a lancé. D'abord, on a rendu public nos difficultés en parlant des mesures super provisionnelles dont tu voudras peut-être parler tout à l'heure. Enfin, ces procédures Bayon. Mmh.
Ça, on en parler maintenant.
On a rendu ça public en expliquant qu'en fait, ces gens-là, ils essayaient de censurer nos articles avec une mesure tout à fait légale en Suisse. Ce sont les mesures super provisionnelles. Et puis nous, ça nous mettait en difficulté parce que ça coûte extrêmement cher en justice de lutter contre ça. Et donc, c'est un peu une manière d'étouffer nos moyens et puis de nous mettre la pression avec ça. Donc on a lancé le Bad Fund, qui est une association de droit suisse gérée par d'autres personnes que nous. Ce sont deux journalistes et puis une personne active dans l'humanitaire qui récolte des fonds qui servent uniquement à payer notre avocat, en fait, et nos frais de justice. Et ça nous a bien sauvés. Je dirais que depuis qu'on a dit que c'était un peu un combat de David contre Goliath, cette histoire de procédure Bayon et de procédure en justice, on nous attaque un peu moins quand même, parce que les personnes ont vu qu'on arrivait à se défendre et qu'on pouvait réagir aussi sur la place publique.
Et ça médiatise aussi ces attaques en justice.
Et Publica a aussi pris le relais, etc. Et ça, on en est contents, évidemment. On n'est pas du tout les seuls à souffrir de ce problème. Mais ce n'est pas terminé. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on est victime d'une telle procédure. Donc on nous a empêchés de dévoiler le nom d'un homme d'affaires qui doit 35 millions au fisc suisse. Mmh. Actuellement, nous ne pouvons pas écrire cet article, le publier et donner son nom. On se bat en justice sur le fond. C'est une procédure à chaque fois qui coûte des milliers et des milliers de francs. Donc, merci aux personnes qui donnent 1 franc, 2 francs, 5 francs au Bad Fund parce que ça nous aide à payer ces frais de justice et à nous défendre, en fait.
Le message est passé. Tu penses que les journalistes sont suffisamment protégés en Suisse ?
Protégé dans quel sens ? Évidemment que je risque pas ma vie, je vais pas me comparer à quelqu'un qui fait du journalisme en Russie par exemple ou dans d'autres pays où c'est difficile de faire ce métier. Bien sûr qu'il y a la liberté d'expression en Suisse, on est une belle démocratie, donc je dirais jamais que pour nous c'est une catastrophe. On arrive à travailler, on vit de notre publication, on est un média florissant aujourd'hui, on est 4 employés. On emploie aussi des pigistes, on est reconnu et respecté, y compris par nos abonnés qui nous lisent, qui sont parfois les personnes qui nous attaquent. Donc,
intéressant comme modèle d'affaires.
C'est un beau paradoxe, mais je dirais oui. Mais il reste un énorme tabou autour de la finance en Suisse et autour du crime économique. Et ce tabou-là, on essaie gentiment de le faire tomber. Et ces procédures Bayon, par contre, qui se sont renforcées au Parlement récemment, sont un véritable problème parce qu'il faut dire que chaque semaine, on écrit 3 articles exclusifs. Mmh. Et puis, pendant le bouclage, en fait, tous les mercredis soirs, avant que ça paraisse le jeudi matin, on doit évidemment appeler les avocats de la personne concernée pour informer qu'il va y avoir une publication, demander leurs commentaires, etc. Parfois, on le fait bien avant, hein. On ne le fait pas toujours au dernier moment, ça dépend du contexte, de comment on arrive à les joindre. Mmh. Et puis là, il y a un peu la peur quand même chaque semaine de se dire, est-ce qu'ils vont nous en mettre une sur le dos ? Est-ce qu'il faut s'attendre à un courrier recommandé demain à la première heure, comme ça nous est déjà arrivé ? Donc, on travaille un peu avec la peur, mais ce n'est pas une peur qui est bloquante. On fait avec, mais effectivement, il ne faut pas baisser la garde, en fait.
Dans un autre registre, vous avez également créé un podcast qui s'appelle « Dangereux Millions ». En partenariat avec Europe 1 et Suisse Info, je te propose d'écouter la bande-annonce.
Bienvenue dans un monde de luxe et de discrétion.
Dans un pays où rien ne dépasse.
Ce sont les banques suisses.
Sérieux, rigueur et ennui.
Vraiment ?
C'est un blanchiment absolument magnifique sur le plan juridique.
Encore une fois, il faut prouver que c'est de l'argent qu'on a voulu blanchir. C'est très compliqué de blanchir, comment vous l'expliquez?
Qu'est-ce que font les Suisses? Ils minimisent l'affaire.
Tout ça s'achète avec de l'argent. De l'argent sale.
Des millions. De dangereux millions.
Il y aurait en fait 150 milliards d'argent russe en Suisse.
Je pense que ça a arrangé tout le monde d'avoir 1 800 000 dollars qui arrivaient sur des comptes en Suisse.
L'argent ouvre toutes les portes.
Même quand il est sale.
Dès lundi matin, derrière des portes closes, le représentant suisse a entamé des discussions avec le procureur général du Mexique.
Ce monde, c'est celui des luttes de pouvoir, de l'arrogance et de l'impunité.
Je reprends tes mots, lutte de pouvoir, arrogance, impunité, c'est vraiment un monde impitoyable, la place financière suisse.
Bon, c'est vrai qu'on y est allé un peu fort pour la bande-annonce. Alors, je peux te répondre par, en te donnant l'exemple des cas qu'on a cités dans ce podcast. Mmh. Il y a 6 histoires de crimes financiers en lien avec la Suisse qui se sont déroulées depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, en gros, hein, de Meyerlansky, le mafieux, jusqu'à 1MDB, donc l'histoire de la Malaisie, du fonds malaisien. C'était pas voulu, on a choisi ces cas-là par intérêt, par passion, parce qu'on avait des documents intéressants, des sources intéressantes, des personnes qui parlaient. Mmh. Et on s'est rendu compte après coup que quasiment dans tous les cas, il n'y avait pas eu justice, en fait. Il n'y a pas de justice, ou il y a rarement de la justice, ou quand il y en a très peu.
Ou très tard.
Ou très très tard. En Suisse, les procédures sont très longues et la peine pour ce type de crime est très basse. Alors après, on peut en discuter. Eh bien, est-ce qu'il faut nécessairement faire des peines énormes, égales à des peines pour des crimes de sang, pour des crimes financiers? Peut-être pas, mais il y a quand même un juste milieu. Donc, quand je dis impitoyable, etc., la vérité, c'est que ces criminels s'en sortent toujours parce qu'ils ont les bonnes connexions, ils ont du pouvoir et ils ont de l'argent. Mmh. Alors, toujours, j'exagère un petit peu, il y a des fois où ça marche. On voit qu'au tribunal pénal fédéral à Bellinzone, il y a des procès, mais enfin, les peines sont des peines avec sursis qui sont ridicules. Les amendes également sont ridicules, donc... C'est dans ce sens-là que je parlais d'un milieu impitoyable, c'est qu'il y a encore beaucoup d'impunité, oui.
Et c'est difficile de raconter la criminalité économique, de faire parler les gens autour de ces sujets?
En Suisse, c'est très difficile, mais je pense qu'en Suisse, c'est très difficile de faire parler les gens tout court.
De manière générale, peu importe le sujet.
Voilà, donc quel que soit le sujet, s'il est un peu sensible, on a de la peine à avoir des gens qui s'expriment librement. On pensait vraiment que sur des vieilles affaires historiques, on aurait des avocats, par exemple, retraités qui se remémoreraient avec plaisir ces affaires-là. La plupart ont dit non. Mmh. Des anciens procureurs qui n'ont pas souhaité intervenir. C'est pour ça que je dis merci notamment à Carla Del Ponte. Je dis merci à M. Bertossa, qui, eux, ont toujours une parole assez libre. Mmh. Et donc ça nous a été très utile.
On va évidemment mettre le lien du podcast dans la description. Il y aura une suite?
Pas pour le moment, c'était un énorme boulot, donc je pense qu'on ne serait pas contre renouveler l'exercice, mais on va d'abord laisser vivre un peu cette première saison sur les plateformes. Elle va passer maintenant sur Slate en France, donc elle va avoir sa petite vie. Les podcasts, ça prend du temps avant de... Mais les premiers retours sont assez bons, donc on est content. Mmh. Peut-être une deuxième saison, je n'en sais rien, on aimerait bien, mais ce n'est pas à l'ordre du jour du tout.
Pour conclure peut-être, je le disais en intro, tu es une journaliste chevronnée, tu as travaillé dans plein de rédactions et publié 2 livres, un sur le sentiment anti-français en Suisse et l'industrie du porno, beaucoup de sujets tabous. Est-ce que c'est les meilleurs sujets, les sujets tabous?
En fait, moi je crois que mon rôle de journaliste, c'est ça, c'est de parler des choses dont on ne parle pas, c'est de creuser des problèmes qu'on ne voit pas, parce que les plus gros scandales, c'est ça, c'est ce qui se passe tous les jours autour de nous et qu'on ne prend pas le temps de regarder. Je considère que c'est mon métier, en fait. Ça peut être dans différents domaines, mais moi, j'aime bien justement lever le voile et puis regarder ce qu'il y a dessous. C'est une curiosité mal placée pour certains. Pour d'autres, c'est de l'intérêt public, en fait. Et il y a plein de gens qui ne le font pas. Par exemple, la finance et l'économie, c'est vraiment un domaine où la plupart des gens vous diront... moi, j'y connais rien, j'y comprends rien. C'est faux, en fait. Il faut ausculter, il faut regarder Watching en anglais, ça le dit bien, en fait. Il faut analyser et vérifier ces choses-là, y compris la finance, pour voir si ça fonctionne dans le bon sens, etc. Et moi, je vois ça. Pour moi, c'est mon travail, en fait.
Pour moi, c'est mon travail. On va prendre ça comme conclusion de ce podcast. Merci beaucoup, Marie-Maurice, d'être venue.
Merci.
Et merci à vous pour votre écoute. On vous invite à aller sur le site de Gotham City pour en savoir plus, à écouter le podcast Dangereux Million et à consulter les quelques références qu'on vous met également en description. C'était Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt.
Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye.